Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, conteuses, ondines et chanteuses de comptines. Vous écoutez l'onde curieuse de ce mardi 17 février. Aujourd'hui, on vous embarque dans une épopée, une traversée qui n'a pas de début, pas de fin, qui abolit le temps et sans doute l'espace. Certains parlent de tradition immémoriale, d'autres de cycle et d'autres enfin de Lay. Lay, alias Lauren Barnell et Karine Abosi, un duo de chants polyphoniques qui glane et gratte du côté des cultures populaires méditerranéennes. Et pour y trouver quoi ? Eh bien, on leur a demandé en février dernier, c'était il y a presque un an, lorsqu'elles sont venues en Ardèche pour une résidence de création, alors qu'elles faisaient un nouveau spectacle qui s'appelait Feu de vie. Mais si nous rediffusons cette émission, c'est qu'elles sortent leur album Amar, autour des imaginaires liés à l'eau, Amar ou Amare, je ne sais pas, un petit peu à l'italienne peut-être, bref. Et qu'elles fêtent ça à la crypte de la Gorse avec un concert le 21 février à 19h, c'est-à-dire samedi. On les écoute dans un instant après que la bise fût venue.
Bonjour.
Bonjour la bise, Sylvain. Et après l'agenda. Dans cet agenda, des voix de femmes mais d'hommes aussi, des corps de femmes et des traditions artistiques réinventées. J'invente un peu cet agenda au fur et à mesure. D'abord, on relaie peu ce que fait l'association Boucan, car c'est un peu loin, à Alès, mais pour celles et ceux qui habitent dans le sud du département, ça peut être très intéressant. L'association propose des ateliers corps et santé sexuelle. Celui de demain est animé par Viviane Korkmaz, mieux connue sous le nom de Vivi, patiente engagée au sein de l'association Périnée Bien-Aimée, sur un sujet peu traité, les douleurs vulvaires. Pendant 2 heures, l'idée est de mieux comprendre, avec sérieux et légèreté, ces douleurs, en se réappropriant des savoirs sur les corps des femmes et comment ils fonctionnent. C'est ouvert à toutes et tous, femmes et minorités de genre, patients et ou professionnels, quelles que soient vos connaissances à ce sujet. C'est mercredi de 15h à 17h, l'accueil se fait à partir de 14h30, dans les locaux de Reseda, c'est avenue Jean-Baptiste Dumas, à Alès. Un peu plus proche d'ici, à Aubenas, il y a des consultations gratuites et anonymes de sages-femmes réalisées par le CEGID 0726, c'est-à-dire c'est l'acronyme de Centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Ils sont tous les 3e jeudi du mois à l'hôpital d'Aubenas, c'est-à-dire ce jeudi 19 février, de 10h à 14h. Sur rendez-vous. Alors je vous donne le numéro, mais si jamais vous n'avez pas le temps de le noter, vous trouverez l'information sur internet tout simplement en tapant CEGID, donc avec 2D 0726. Donc le numéro c'est le 06 37 11 71 90. C'est donc tous les 3e jeudi du mois de 10h à 14h pour parler du suivi des femmes, de contraception, d'IVG, de sexualité, de violence, de ménopause et d'autres choses. La voix est au bonhomme maintenant. Et quel bonhomme, un bel homme même, Rémi Bellhomme, auteur, édité par les éditions Au Pluriel, notamment, que nous avions reçu. Il sort son dernier bouquin intitulé « Le musée de Monsieur Marteau », une comédie satirique qui écorne les manifestations officielles. Il sera présent mercredi 18 février à 18h, c'est facile pour la mnémotechnie, à ma petite bouquinerie à Joyeuse, donc mercredi à 18h, rencontrer des auteurs vivants. Et je vous parlais des traditions, et bien les voilà. Au MET, c'est le lieu dédié à la marionnette du Teï, l'association Lyon-Ukraine, en complicité avec la compagnie La Rose des Vents, Clément Perichaco, invite en France l'école nationale ICA, Karpenko-Kari de Kif, à une démonstration de vertep. Le vertep, c'est une forme ancienne de théâtre populaire traditionnel ukrainien, généralement joué pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An. Et traditionnellement, le vertep se composait de 2 parties, une partie religieuse et une partie profane. Une démonstration, donc, en sera faite jeudi à 18h30 au Met. Les échanges seront bien sûr traduits. Ça s'adresse à tous les publics dès 8 ans. L'entrée est libre et ça dure environ une heure. Vous pouvez mieux vaut réserver directement auprès du Met. Et puis bien sûr, un petit verre de l'amitié terminera la soirée. Et nous, on referme cet agenda avec une tradition bien vivante, la harpe celtique qui rencontre le rap. La harpe, c'est Clairvy, le rap, c'est Vérone. Ils se rencontrent tous les deux vendredi à 20h à la crypte pour un concert de rap acoustique. Avec vous, bien sûr, hein, ils ne sont pas exclusifs, je dis ils se rencontrent, mais devant vous. Le prix est libre, c'est sans réservation. Donc ça, c'est vendredi à la crypte de la Gorse et samedi, à la crypte, eh bien, vous pourrez retrouver Lay en concert pour la sortie de leur album Amar. Elles étaient au micro de Fréquence 7 il y a presque un an. On les réécoute. Karine, vous pouvez venir vous asseoir. Lay, donc, que vous venez d'entendre, un duo de chant polyphonique qui est en ce moment en résidence de création pour un nouveau spectacle qui s'appelle Feu de vie. Mais vous êtes là aussi pour nous parler de votre première création, Amar, qui aborde justement les imaginaires liés à l'eau, qui sera jouée pendant le festival de la Beaumont Musique, à la fois pour l'ouverture le 6 juin et dans la Veine d'Orniac le 14 juin. Alors, puisqu'on embarque sur l'eau, on peut vous poser sans rougir une première question bateau. Pourquoi Lay ? Qu'est-ce que ça signifie ?
Lay, c'est la racine du prénom Leïla, qui en hébreu et en arabe veut dire la nuit ou les filles de la nuit. Et on a choisi ce nom parce qu'on voulait quelque chose de court, de lumineux. Et donc Lay, c'était comme un petit éclat, une petite lumière dans la nuit.
Merci.
Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous est venue l'idée de créer ce groupe, enfin ce duo ?
Alors nous nous sommes rencontrés par le chant, parce que avant Lay, il y avait un autre groupe, on était plus nombreux à chanter. J'avais fondé ce groupe de chant, plutôt chant occitan, avec plusieurs amis, il y a pas mal d'années maintenant. Et Karine...
2018, c'est ça, Amaleos ?
Ah oui, c'est ça, merci. Merci de suivre mieux que moi les actualités. Et donc, oui, il y avait ce groupe Amaleos. Et donc, Karine a rejoint ce groupe à un moment donné, peut-être en 2020, quelque chose comme ça. Donc, on a commencé à chanter ensemble dans le cadre de ce groupe. Et donc, ce groupe qui était donc amateur, plutôt amateur. Et donc en fait on a eu envie de continuer à chanter ensemble et de se lancer dans un projet plus professionnel aussi. Et ça c'était en 2022.
Le chant polyphonique, alors c'est un chant populaire qui se partage. Qu'est-ce que ça vous apporte? Cette forme particulière de chant, le chant polyphonique.
Ça nous apporte plusieurs choses. C'est vrai que le chant polyphonique, à la base, c'est une tradition orale, populaire, donc qui se partage d'homme à homme, de femme à femme, depuis des millénaires. En tout cas, on ne sait pas du tout dater depuis quand le chant se partage entre les êtres humains. Et le fait de chanter ensemble en polyphonie, ça nécessite d'être accordé, de se mettre en harmonie, évidemment, parce que une voix par rapport à l'autre doit être juste. C'est ça qui est assez beau aussi dans le chant polyphonique, c'est qu'on n'est pas soumis à une justesse de piano, on est soumis à la justesse l'un par rapport à l'autre. Et donc ça nous apporte cette écoute de l'autre, ce partage et ce moment d'être ensemble avec une qualité particulière de présence.
Alors, je rebondis parce qu'il y a aussi un autre événement, c'est fin mars, vous allez enregistrer votre premier album, donc à partir de Amar, le spectacle que vous jouez, et justement, fixer une œuvre vivante, vous parlez de tradition orale, pour la première fois. Qu'est-ce que ça vous fait quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est plus votre simple présence, c'est plus du coup l'oralité, le moment présent qui sera véhicule de votre univers, mais ce sera une œuvre, enfin voilà, ça fera sa vie sans vous.
Mais disons que enregistrer un album, bon, c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, mais en tout cas, moi je l'envisage comme un projet à part entière. Pour moi, il y a vraiment la scène, les concerts, les moments de partage dans le réel, et c'est notre métier, c'est celui qu'on a choisi, en tout cas c'est vraiment celui du partage au présent. Et ensuite il y a l'enregistrement d'un album qui est vraiment un objet artistique en soi, et donc c'est un autre exercice qui nous stimule aussi beaucoup, parce que nous donc on a une formation aussi assez particulière, donc on est toutes les deux passées par une école des beaux-arts. Donc on a aussi cette vision du projet qui est assez globale, à la fois musicale mais aussi avec une dimension visuelle, donc on s'intéresse en fait à tous les aspects du projet, heureusement pour nous, parce que il y en a pas mal quand même des casquettes à porter quand on monte un projet comme ça à deux, et donc c'est aussi très intéressant pour nous, quoi, de pouvoir imaginer cet objet à la fois musical et en même temps dans sa dimension plus graphique, visuel, et en effet, voilà, la musique est fixée, mais c'est aussi génial pour nous d'imaginer de pouvoir vraiment toucher plus de personnes aussi à travers les plateformes d'écoute, pour gagner en visibilité.
Vous parlez là de visibilité, mais aussi du visuel, puisqu'effectivement vous avez fait les Beaux-Arts toutes les deux. Comment ça se matérialise dans vos spectacles, cette part, cette dimension donnée au visuel, est-ce que ça l'est seulement ?
Dans notre premier spectacle, Amar, ça se matérialise pas de manière visuelle. Voilà, c'est pas un spectacle qu'on a pensé avec la scénographie. Par contre, pour Feu de Vie, c'est quelque chose qu'on pense activement. notamment parce qu'on a envie de créer ce spectacle pour la scène, et donc de faire une création lumière, étudiée, avec des éléments de scénographie qui pourraient jouer avec la lumière, et c'est encore un peu flou, on est à peine au début de la création du spectacle. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en avant et de penser plus globalement. Après, dans la vie de tous les jours, ça nous sert beaucoup car on fait toute notre identité visuelle et c'est important pour nous aussi. Voilà, tout l'aspect communication et l'image qu'on renvoie. Et pour plein d'autres répertoires aussi, un autre répertoire qui viendra plus tard, jeune public, dans 2 ans. On a déjà commencé à dessiner des choses, mais on va aussi étudier la partie scénographie pour les tout-petits un peu plus spécifiquement.
Alors, on va se plonger dans votre première création, Amar. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, quel univers et comment vous avez constitué, créé ce spectacle?
Donc, Amar, on en parle comme un ensemble de chants de femmes. En fait, c'est des chants traditionnels qu'on a glanés autour de la Méditerranée, des chants qu'on nous a transmis oralement ou qu'on a découvert de manière fortuite et qui nous ont réunis. En fait, c'est un peu ce premier répertoire, c'est un peu un répertoire de cœur, dans le sens où c'est le tout premier, où on a mis en commun nos envies et nos appréciations, ce qui nous réunissait. Donc c'est un ensemble de berceuses, beaucoup de berceuses, des comptines, dans différentes langues. Il y a 7 langues différentes. Et il y a aussi des textes de poétesses mis en musique. Donc l'idée, c'est vraiment de porter la parole des femmes à travers ces chants, des chants qui plutôt d'intérieur, des chants qu'on n'a pas l'habitude en fait d'entendre sur une scène. Et notre idée, c'est de déplacer ces chants de l'intime et de les partager. Et forcément, à Mars, c'est des concerts qui sont souvent dans des cadres aussi intimistes, parce qu'on le joue la plupart du temps a cappella, en acoustique, beaucoup dans des lieux du patrimoine. Donc, comme c'est un a cappella, c'est assez génial pour nous de pouvoir, adapter ce spectacle à différents types d'espaces, et moduler aussi ce répertoire en fonction de l'espace dans lequel on est. Et c'est un spectacle aussi qu'on joue parfois avec des musiciens, contrebasse et percussion.
Et c'est sous cette forme quartet que vous allez donner le spectacle dans la Veine d'Orniac, c'est ça? Vous avez déjà testé de chanter dans la Veine d'Orniac?
Oui. On est déjà allé faire 2 repérages toutes les 2. Il y a une super acoustique dans la Veine d'Orniac, on vous le dit. Prenez vos places. Les musiciens sont pas encore venus, ils viendront au mois de mai et on fera une répétition générale tous les 4.
Est-ce que ça a déjà nourri? Est-ce que ça vous a déjà nourri? Est-ce que ça a déjà apporté quelque chose, le fait de le chanter spécifiquement dans cet environnement qui est un environnement vraiment magique?
Mais c'est vrai que le répertoire, il prend une toute autre couleur dans ce lieu, parce que c'est un spectacle qu'on envisage en déambulation dans différents espaces de la Veine d'Orniac. Donc il y a vraiment l'idée d'embarquer les spectateurs, spectatrices dans un parcours au travers de ce lieu qui est vraiment incroyable. Et donc on fait en sorte d'exploiter au maximum toutes les possibilités du lieu. Je vais pas trop en dire parce que ça va sûrement être un spectacle vraiment extraordinaire.
On va préserver le mystère. Je veux juste faire part aux éditrices, aux auditeurs de quelque chose qui vient de se passer. J'avais l'impression que le temps était arrêté. Effectivement, ça fait 5 minutes que l'horloge de la radio s'est arrêtée. Je me disais, mais c'est incroyable.
C'est vrai qu'on l'entend plus alors qu'on l'entendait tout à l'heure.
Voilà, ouais. En fait, il est midi 21 et il est toujours midi 15 à l'horloge. Vous avez créé ce spectacle Amar avec des chants venant de, vous l'avez dit, plusieurs horizons différents, autour de la Méditerranée, mais de plusieurs langues différentes. Est-ce qu'il y a une langue qui vous fait le plus plaisir de chanter?
C'est difficile. On les aime toutes.
Peut-être pour des raisons différentes, peut-être que ça provoque des sensations différentes.
En tout cas, l'apprentissage, déjà, c'est clairement différent, parce que pour apprendre du basque, C'est très compliqué, parce qu'on comprend rien.
C'est pas une langue indo-européenne, aucun fond
voilà.
Commun.
Pour apprendre le basque ou l'arabe ou le turc, c'est d'autres mécanismes que ça nous plonge dans une dimension beaucoup plus sonore, beaucoup plus qu'est-ce que cette voyelle, qu'est-ce que cette consonne, prononciation des consonnes, prononciation des voyelles, spécifique à certaines langues, alors qu'évidemment dans des chants avec des langues latines qu'on comprend, ça peut être un peu plus facilement se pencher sur l'interprétation dès le début, même sans savoir approfondir le chant.
Donc là, vous avez puisé dans un répertoire qui existe déjà pour le nouveau spectacle. Donc vous êtes en train de préparer, puisque là, vous êtes ici en Ardèche en résidence de création pour donc votre spectacle qui s'appelle Feu de vie. Est-ce que vous pouvez déjà nous en parler un petit peu, nous mettre l'eau à la bouche ?
Alors, Feu de vie, c'est aussi des chants de femmes. Mais cette fois-ci, c'est essentiellement des compositions musicales et textes originaux, inspirés des écrits enflammés de poétesses mystiques, comme Hedwige d'Anvers, Hildegard de Wingen, mais aussi d'écrits mystiques, par exemple, de Rumi, poète perse. Et donc, oui, c'est un exercice tout à fait différent pour nous, parce que c'est un spectacle, comme le disait Karine, qu'on imagine pour la scène, et qu'on imagine aussi, on imagine aussi élargir notre gamme de sonorités et le public aussi touché, parce qu'on on a envie de rester dans la musique du monde, mais en même temps de toucher aussi la musique actuelle avec une proposition beaucoup plus rythmique, amenée à des états de transe avec beaucoup de répétitions. En tout cas, on va pas être seulement a cappella, ce sera aussi avec des sonorités électroniques. On n'a pas encore défini exactement comment ça allait se passer sur scène. Est-ce qu'il y aura des synthétiseurs ? Est-ce que on est en train de réfléchir à tout ça. Mais en tout cas, on a commencé à composer les premiers textes qui nous parlent de feu et qui nous parlent d'amour sous toutes ses formes.
Est-ce qu'il faut y voir une évolution de vos émotions, de vos sentiments du moment, c'est-à-dire passer de chant doux, de berceuse, à quelque chose de beaucoup plus enflammé, joyeux, amoureux, mystique ? Est-ce que ça traduit quelque chose de ça ?
Il y a une ligne commune, on va dire que on reste dans notre essence, peu importe que ce soit plus eau ou plus feu. Mais en tout cas, autant que le groupe grandit et croit et s'affirme, et affirme une identité, Feu de vie arrive à ce moment-là où, on sent que c'est le moment d'affirmer une identité.
Je voulais revenir sur vos inspirations. J'ai lu que vous étiez inspirée de Giovanna Marini, qui est décédée au printemps dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette conteuse, chanteuse et de sa portée politique?
Giovanna Marini, elle a mené un grand travail en Italie. Elle a mené un grand travail de collecte, qu'on appelle, pour récolter tous les chants traditionnels et des campagnes, en fait, des gens. Ça s'est fait en France aussi, ça s'est fait en Grèce aussi. Je sais plus comment elle s'appelle, cette dame en Grèce, qui a fait ça aussi. Mais en fait, c'est... Comme cette tradition orale, elle se perd de nos jours, il y a eu un grand travail de collecte d'aller chez les personnes âgées qui détenaient encore en fait ce savoir et de les répertorier pour ensuite pouvoir transmettre ce répertoire, le rendre visible et le faire connaître en notamment faisant des ateliers, des stages. Enfin voilà, Giovanna Marini, elle a beaucoup transmis à plein de gens, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est aussi connue.
Ces chants populaires avec une dimension aussi politique. Et avant de vous refaire chanter, ce que me souffle mon collègue Sylvain, mais fais-les chanter, oui. une dernière question, puisqu'il va être l'heure. Justement, plus politique, vous qui travaillez avec beaucoup de centres culturels, d'institutions culturelles qui sont financées par des collectivités publiques, comment vous voyez les coupes budgétaires qui affecte le milieu de la culture?
Mais c'est sûr que ça fait peur, ça va pas dans le bon sens. Pour le moment, voilà, on a la chance d'être soutenu, ben, par exemple, par la Beaumont Musique, qui nous permet de poursuivre nos actions partout sur le territoire. Et c'est génial. Disons que je pense que voilà, on essaye de vivre au présent au maximum. Au présent, on a encore la chance de pouvoir faire ce qu'on aime et le partager. Donc, on se concentre là-dessus pour avoir toujours l'énergie de le faire et puis d'apporter de la douceur au monde, parce que c'est notre idée, disons.
Eh bien, si vous voulez bien nous apporter encore un peu de douceur avant qu'on se quitte, vous allez chanter. Alors, je ne sais pas si c'est, si c'est toujours dans le répertoire de Amar. Toujours dans le répertoire de Amar. Bravo et merci à toutes les deux, Leï, Lorraine Darnel et Karine Abosi. Où nous avez-vous emmenés cette fois-ci? Et juste avant de nous quitter,
alors,
Lorraine.
Merci beaucoup pour votre accueil. Nous avons emmené en Tunisie, paraîtrait-il. Il s'agit d'un sens, un chant soufi, un moasha. Ce sont des poèmes chantés en arabe littéraire, et celui-ci nous proviendrait de Tunisie.
Et le premier qu'on a entendu à la pause musicale,
c'était du basque, c'était une berceuse en basque.
Eh bien voilà, merci Lei, qu'on retrouve dans la playlist de Fréquence 7 à partir du mois de mars, dans la célèbre playlist de Fréquence 7. Et sinon, vous pouvez les rencontrer samedi à la crypte de la Gorse à 19h. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission et merci à vous auditrices et auditeurs. Vous retrouvez la suite des programmes à 15h, le Telex, c'est-à-dire vos événements en Sud-Ardèche, à 16h sur la route, à 17h la rediffusion de cette onde curieuse, à 18h Polémics et la voix off qui s'attaque au sujet de l'écoterrorisme avec, je cite l'écoterrorisme, Julien Leguet sabote une crotte de loutre. Et à 21h, Metal Zone, avec comme invités spéciaux les trois musiciens de Pulse of Wrath, avec l'accent. Allez, ciao.